Quelle joie d'entendre ces versets de la parole, tous sortis de leur petit contexte, mais qui les uns associés aux autres nous rappellent l'œuvre de Dieu. Dans le temps qui s'est écoulé depuis la venue du Christ, depuis l'histoire, le christianisme a fortement évolué, parfois par des secousses violentes. Je pense à des choses comme l'Inquisition, par exemple, ou la Réformation, le temps de la Réformation, parfois par un chemin lent et quasi imperceptible, avec des périodes de sommeil de l'Église et des périodes de réveil de l'Église. Depuis le début de du XXe siècle, le monde, la vie, la technique, la science, on fait des bonds de géants. L'utilisation de l'électricité partout dans les campagnes, ça date de quand? Ça date que de l'année 1900. C'est pas loin, hein? Ben, c'est pas très loin. C'est pas très loin parce que quand vous pensez à des personnes qui ont 90 ans, elles ont encore connu les becs de gaz à la place des lampadaires dans les rues. Donc c'est pas très loin. Ça date de 1900 à peu près, jusqu'à l'accélération, on va dire, un peu plus frénétique de ces 30 dernières années, due notamment à l'informatique, où tout change quasiment en temps réel. Ce que vous achetez aujourd'hui, demain, c'est déjà obsolète, dépassé, ça ne vaut plus rien, à peu près. C'est ce que l'histoire appelle le progrès. Et c'est ce que nous considérons à juste titre comme le progrès, une évolution. Depuis environ un siècle aussi, le paysage de l'Église a aussi lui fortement évolué. Et même la pratique religieuse, le sentiment religieux et la foi, la façon dont la foi se transmet, par exemple dans la famille, n'est plus du tout ce que c'était simplement, je veux dire, du temps de nos parents ou de nos grands-parents. C'est plutôt la même façon. Les temps ne sont plus les mêmes. La vie sur Terre n'est plus du tout la même qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et la vie ne sera pas la même dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais par rapport à toute cette évolution, qu'en est-il de la vie avec Dieu, de notre vie avec Dieu ? Au milieu justement de tous ces changements auxquels nous sommes confrontés jour après jour. Et ces changements, ils sont dans l'Église aussi. On a un peu perdu, c'est vrai, l'habitude d'avoir une Bible, par exemple, pour lire, pour regarder. Qui a une Bible ce matin? Non, mais c'est juste, c'est pas du tout, c'est juste pour expliquer. Mais par exemple, on voit aussi des gens avec un... Comment ça s'appelle là? Une tablette. J'en ai pas. Mais bon, avec une tablette, et il y a la Bible dessus. C'est la même chose. Mais c'est nouveau. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de tablette. Point. Voilà. Qu'en est-il au milieu de ces changements de notre vie avec Dieu? Les réformateurs du XVIe siècle avaient compris totalement ces changements, les enjeux de ces changements, et intégré à leur pensée les dangers, les dérives aussi qu'apportent les changements de la société. Ils ne s'étaient pas trop attardés sur le progrès que ça pouvait apporter, justement, mais surtout sur les enjeux qu'ils voyaient, eux, dangereux. Ils ont principalement donc protesté, d'où le mot de protestant, protesté contre tous ceux qui voulaient ajouter à la parole de Dieu des traditions humaines, ou plus en général, contre tout ce qui, dans la doctrine de l'Église, vient des hommes et non pas de Dieu. Ainsi, au temps de la Réforme, ils ont exprimé leurs convictions dans 5 formules très significatives, commençant par « sola » ou « solus », en latin, ce qui veut dire « seul » ou « seulement ». C'est ce que l'histoire de l'Église nomme les 5 soli de la Réforme. Alors, il y a 5 points qui sont importants. « Sola scriptura », l'écriture seule, D'abord l'Écriture, hein, seulement, d'abord, en priorité. Solus Christus, le Christ seul. Sola Gratia, la grâce seule. Sola Fide, la foi seule. Sola Deo Gloria, la gloire de Dieu seul. Voilà les cinq points que les réformateurs avaient notés comme étant la base de la foi et sur lesquels la foi devait être chevillée. La première d'entre elles, Sola Scriptura, l'Écriture seule, était un petit peu ce qui commandait aux autres quatre autres soli, ici. Et c'était des points importants. À l'époque de la réforme de Martin Luther, cette expression réaffirmait que la Bible était l'unique et ultime autorité à laquelle les chrétiens se soumettaient, à l'exclusion de tout décret, toute norme, toute haute doctrine venant des traditions de l'Église médiévale, des conciles ecclésiastiques et du pape. Il n'y avait qu'une Église à l'époque. Hein. L'Église n'était pas encore scindée, enfin plus ou moins, mais il n'y avait en tout cas qu'une Église, elle était catholique. L'Écriture sainte avait en elle-même seule la qualité d'autorité véritable et unique pour tous les croyants. Cette Écriture, elle est la même. Elle est toujours la même. Et cette vérité est toujours la même. Aujourd'hui, nous confessons, ou nos confessions de foi évangélique, adhèrent toujours à l'autorité de la Bible. Et nous sommes convaincus de l'autorité de la Bible. Mais la pratique, notre pratique de tous les jours, est parfois différente. Et la question que nous devons nous poser, jour après jour, est de savoir si la Bible suffit à elle seule pour orienter et diriger notre vie, ou la vie de l'Église, ou notre travail et le travail de l'Église. Autrement dit, croyons-nous, et là c'est individuellement qu'on doit se poser la question, croyons-nous, en 2014, face à la complexité de la société dans laquelle nous vivons, que l'Écriture seule est capable d'attirer les incroyants vers le Christ? Que l'Écriture seule est capable de nous aider à croître dans la piété, de diriger nos vies, de transformer nos vies et de revitaliser nos vies, mais aussi la société qui nous entoure, le monde qui nous entoure? Est-ce que nous n'avons pas souvent plutôt tendance, ou est-ce que nous n'avons pas eu souvent plutôt tendance à privilégier nos moyens humains, c'est-à-dire les moyens qu'on nous mettait à disposition, au détriment de la Bible pour accomplir l'œuvre de Dieu? C'est-à-dire à mettre en place toute une série d'artifices qui fait qu'au bout on arrive quand même à la parole de Dieu, au lieu de partir à la parole de Dieu et d'utiliser ces artifices. Loin de moi l'idée de rejeter l'utilité des découvertes, fruit des recherches dans tous les domaines scientifiques. Toute vérité a sa source en Dieu. Et les sciences humaines nous permettent de mieux comprendre dans notre temps toute la révélation de Dieu créateur. Mais les réformateurs étaient inquiets de voir souvent que toutes ces techniques, déjà au XVIe siècle, pourtant, on n'était pas dans une évolution comme la nôtre, que déjà tout ce qui était rajouté faisait perdre justement ce sel à la parole de Dieu. Et un des passages qu'il mettait en avant était le passage de Romains 1, 19, 20. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on ne peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Pardon, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, c'est évident donc, depuis la création du monde, quand on considère ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Inexcusables donc de cacher ou de taire des choses au travers d'artifices qu'on mettrait. Nous devons donc veiller avec une extrême vigilance au glissement imperceptible qui nous guette tous les jours dans notre société, dans notre travail, dans notre vie, dans nos relations. Notamment ceux de remplacer l'Écriture ou de ne concevoir sa lecture que par les moyens techniques ou les moyens de connaissance du siècle dans lequel nous vivons, ou uniquement au travers des filtres que propose notre société, qu'ils soient sociaux, psychologiques, éducatifs, si solides soient-ils. Et nous devons rester avec vigilance et avec l'intelligence que Dieu nous donne, que Dieu a mise en nous, sous l'autorité de l'Écriture seule. Il y a une vingtaine d'années, plusieurs personnes, pasteurs, chercheurs, connus, plus ou moins connus, dont un pasteur qui s'appelait James Boyce, pasteur à Philadelphie, exprimait son inquiétude de voir l'Église se diluer ainsi dans le monde ambiant, montrant combien la pleine suffisance de la parole de Dieu gardait toute son actualité. C'était pas loin, hein, c'était environ vers 93 à peu près, 1993, donc une vingtaine d'années. Il est important aujourd'hui et ici de nous poser la vraie question de la place de l'Écriture. Et dans tout ce que nous avons réfléchi et essayé de voir dans les promesses de Dieu, par exemple, il y a toujours la base de cette Écriture. Il est important de nous poser la vraie question de la place de l'Écriture, de la parole de Dieu, ce que nous mettons en avant, la parole de Dieu. C'est quelque chose de fort pour nous, de mettre à la place, de remettre cette parole de Dieu à sa place dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église. Croyons-nous vraiment que Dieu nous a donné dans sa parole, et dans sa parole seule, tout ce dont nous avons besoin? Ou encore, l'enseignement biblique est-il suffisant pour favoriser non seulement notre vie, mais aussi de manière plus générale, le progrès, tiens, on trouve le mot, le progrès social, les réformes nécessaires à une vraie vie? La Bible nous apporte elle-même des pistes et des réponses très précises. Le psaume 19 nous montre que la parole de Dieu est parfaite, digne de confiance. Elle donne sagesse et discernement. Philippe, si tu peux nous mettre le psaume 19, merci. Je vais le lire là parce que je ne sais pas si c'est tout à fait le même... La traduction. Ce n'est pas un langage, on parle de la parole de Dieu. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La parole de Dieu est visible de partout, du matin au soir. Elle éclaire la terre, elle chauffe la terre. Et vous connaissez ces passages, ces paroles qui sont merveilleuses. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commencements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Est-ce que ça, on l'a au fond de notre cœur, chevillé? Ils sont plus précieux que l'or, oui, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Ce n'est pas uniquement avoir envie de cette récompense, mais c'est faire de ces choses, de ces affirmations, les bases de notre vie et y revenir. Et ça c'est la vérité. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir un beau ruban, un beau papier avec un beau ruban autour. Non, il suffit simplement de lire et de faire sien. La parole de Dieu est parfaite, digne de confiance, elle donne sagesse et discernement. Dans Matthieu 4, nous découvrons autre chose, la pleine suffisance de la parole pour résister aux tentations. Jésus n'a eu recours ni à un pouvoir surnaturel, ni à des signes, ni à une intervention spéciale de Dieu pour être délivré de la tentation. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cité trois fois la parole de Dieu, trois fois des textes du Deutéronome, et l'ennemi a été vaincu. Pas d'autre artifice ici, la parole de Dieu. On va lire ces textes. Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit « Il est écrit, il est écrit. Il y a dans la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Moi, je me suis arrêté 5 minutes là pour imaginer comment le diable avait dû prendre cette réponse. Il y a des idées, mais hors sujet. Ça ne veut rien dire, ça, ce que tu me dis là. Je te demande une réponse. Et le Christ ressort une réponse de la Bible, de la parole de Dieu. Et le diable continue. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il a écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Deuxième passage de la parole que le Christ pose simplement comme fondement. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Alors le diable le laissa. Il n'y a aucun commentaire de la part du Christ. Il y a simplement les passages de la parole qui sont posés comme une réponse à l'ennemi. Dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée, Paul dresse un portrait de la société qui ressemble vraiment, vraiment à la nôtre. Et il dit ceci, « Dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leurs passions, enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. » Vous ne trouvez pas que ça ressemble drôlement à notre société, ça ? Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. C'est Paul qui donne ça à Timothée en l'envoyant en mission. Il dit, rappelle-toi bien de ça et tu vas arriver dans cette situation-là. Ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Mais quelle est cette arme secrète, cette force que Paul pose comme nécessaire pour agir dans un temps pareil? Rien de neuf depuis le temps de Paul et de Timothée. Les Écritures saintes qu'il connaît depuis son enfance, auxquelles il doit et nous devons rester attachés, car elles seules donnent vraie sagesse, la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et Paul le dit en suivant, au verset 16 et 17 du même chapitre, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est aussi utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu, de sorte que l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » C'est simple la vie, vue comme ça. Retour à la parole, car elle est seule et non seulement puissance de vie, mais elle est aussi toute suffisante, et toute suffisante, je le répète, dans tous les domaines de notre vie. Et je vais juste relever quelques points, quelques domaines. Suffisante pour le témoignage, pour annoncer la parole, pour l'évangélisation. Toutes les techniques de communication employées, musique, ambiance, émotion, doivent rester des attributs ou des compléments au service de la parole. Au service de la parole, mais ne doivent jamais prendre la place de la parole. On ne peut ni ne doit s'appuyer sur ces artifices à la place ou sans une prééducation fidèle ou un enseignement clair de la parole de Dieu. On court sinon le risque quand même que les conversions qui en résultent soient elles-mêmes artificielles, malheureusement, et donnent des chrétiens de nom seulement. Le seul moyen par lequel le Saint-Esprit agit pour régénérer des hommes et des femmes, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. La parole vivante et éternelle de Dieu. Suffisante, la parole de Dieu l'est aussi pour notre bien à nous, pour tout ce qui est notre sanctification, notre construction intérieure, notre vie extérieure, intérieure de tous les jours. Et là, il faut bien admettre que nous, chrétiens, nous avons souvent des fâcheuses tendances à mettre en place des méthodes très précises. Si vous voulez être saint, par exemple, voilà trois choses que vous devez faire, et on placarde trois choses. Et bien sûr, ça peut aider, hein. Ou alors une expérience à réaliser. Vous avez besoin d'une seconde œuvre de grâce, par exemple du baptême du Saint-Esprit, en plus. Donc, c'est indispensable. Paul lui affirme qu'il s'agit de connaître la Bible et ce qu'elle enseigne au sujet de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu a fait, ce qu'il dit qu'il a fait pour nous, pour être sauvés. Le croyant a donc une seule chose à faire et une seule chose à suivre, se considérer comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il doit donc pour cela lire et connaître l'Écriture, puis agir sur la base de cette connaissance. Il découvre ainsi ce qui a été accompli pour lui. Voilà l'approche biblique de la sanctification. Connaître et vivre par la parole suffisante de notre Dieu. Ainsi, nous pouvons vivre en étant guidés par Dieu, par sa parole, qui nous renseigne et nous enseigne amplement la manière de vivre selon le plan de Dieu, pour notre bien, mais aussi pour lui plaire et pour pouvoir le glorifier. Cela ne veut pas dire que toutes les réponses à nos questions sont écrites noir sur blanc dans la Bible. Quelle profession choisir? Avec qui je vais me marier? Non. Est-ce que je mets du jaune dans ma tapisserie ou du brun sur le pan de ce mur? Non. Mais en obéissant aux directives et aux conseils de la parole de Dieu, en obéissant aux directives et aux conseils que Dieu nous donne, nous aurons toutes les données pour ne pas faire fausse route. Et vous savez, la tapisserie, Dieu, qu'elle soit jaune ou verte, ça ne va pas lui changer la vie. Peut-être ça va changer la nôtre, mais l'essentiel est de retourner et de rester à la parole de Dieu. Enfin, la parole de Dieu, et peut-être là ça nous surprend et ça nous choque peut-être même de l'entendre, mais la parole de Dieu est suffisante également pour renouveler la société et même nécessaire pour la réformer à tout niveau. Et une fois que j'étais en train de travailler là-dessus, je me suis souvenu que dans notre petit fascicule qui présente l'Église, c'est marqué à l'endroit que nous croyons que la parole de Dieu est la source nécessaire pour l'avenir, pour la société. C'est marqué dans ce petit fascicule en juste une phrase. Et je voudrais vous donner quelque chose qui nous touche de près, géographiquement, par rapport à ça. Comme preuve historique, proche de nous, l'exemple de Genève. Ça a peut-être un peu cassé notre image de Genève. De Genève au temps de Calvin. En 1535, alors c'est loin ça, bien sûr, mais c'est important, c'est historique et c'est tout près de nous. En 1535, le conseil qui gouvernait la ville de Genève a décidé de rejeter le catholicisme et de se tourner vers la réforme. 1535. Jusque-là, la ville était connue pour ses émeutes, ses jeux de cartes, danses indécentes, ivrogneries, adultères et autres vices. Certains se promenaient nus dans les rues, chantant des chansons grivoises et blasphématoires. Voilà l'image de Genève avant la Réforme. Le Conseil ne savait pas comment faire pour changer cet état de choses, qui ne correspondait pas à l'Évangile, bien sûr. Il émit donc décret sur décret, loi sur loi, pour endiguer les vices, mais rien n'y fit. Le niveau moral de la cité continuait à décliner. Calvin arriva à Genève, une année plus tard, par hasard, tout à fait par hasard, il passait à Genève. Personne ne le connaissait. Calvin était français, je vous l'apprends si vous ne le saviez pas, ce n'était pas un bon Suisse, c'est un Français. Il arrive de France, il devait aller à Bâle, manque de peau, il y avait une guerre, il a dû faire le tour, passer par Genève pour pouvoir remonter en Suisse, prendre l'autoroute et remonter. Ses premiers essais de prédication à Genève furent tellement impopulaires qu'au bout d'une année, le conseil le démissionna de force. Alors qu'il ne touchait même aucun salaire pour ses prédications. En 1538, il va revenir, mais avant, il va donc repartir à Strasbourg, où il était très heureux, et lui n'avait aucune envie de retourner voir ses Suisses qu'il avait mis à la porte. Mais lorsque la situation devint vraiment ingérable à Genève, le Conseil, se souvenant des prédications de Calvin très dures contre le comportement des gens, le supplia de revenir. Calvin a été interpellé par le sentiment du devoir et l'appel de Dieu, et il est revenu en 1541 à Genève. Sa seule arme était la prédication. Il a repris la prédication exactement là où il s'était arrêté, en 1538, 3 ans et demi auparavant. Il a prêché tous les jours, et sous l'effet de la prédication, les choses ont commencé à changer. James Boyce dira dans un de ses écrits qu'il a fait avec Alfred Kuhn, notamment, « Lorsque les Genevois eurent connaissance de la parole de Dieu et lui permirent d'influencer leur comportement, leur cité devint presque une nouvelle Jérusalem, d'où l'Évangile rayonna vers le reste de l'Europe, vers la Grande-Bretagne et vers le Nouveau Monde. » Ce changement entraîna logiquement d'autres changements sur le plan social, réglementation, amélioration des conditions sanitaires, création d'un hôpital, d'une maison pour les pauvres, éducation des gens à tous les niveaux, création de l'académie, le collège de Calvin, qui influença toute l'Europe, établissement d'industries, dont l'horlogerie, puis la finance. Pour James Boyce, Genève est le meilleur exemple de ce que peut réaliser sur le plan moral et social la prédication fidèle de la parole de Dieu. On est loin actuellement, ça nous casse un peu l'image du Genève flambant qu'on a à côté de chez nous. Mais laissons-nous interpeller par cet exemple si proche de nous. Être chrétien, c'est bien. Connaître la parole de Dieu, c'est bien aussi. Mais se laisser imprégner par elle, comme le bien à la fois le plus précieux, mais aussi à la fois le plus totalement suffisant pour notre vie. Pour autant que nous la recevions, cette parole, et que nous fassions l'effort, et c'est peut-être, ça nous demande un effort, en tout cas un retour sur soi, un travail de la comprendre, d'abord de la lire, de chercher ce qu'elle veut dire, de la comprendre, et conformément au projet de vie que Dieu a pour nous, que nous la laissions agir en nous pour nous transformer et pour vivre dans notre temps, avec les moyens de notre temps, ce que Dieu nous donne justement pour mettre au service de sa parole aujourd'hui. Sola scriptura, l'écriture seule, la parole en premier, la puissance de la parole en premier, l'écriture d'abord. C'est vraiment ce que Dieu veut nous rappeler jour après jour. Amen. Dans la parole de Dieu, il nous a enseigné cette table, ce repas. Et vous savez quelle était la punition, je dis bien la punition ultime que Calvin avait instaurée à Genève quand les gens n'avaient pas eu dans la semaine une vie qui honorait Dieu, le dimanche, il les privait publiquement de la scène. Imaginez la cathédrale, imaginez Calvin qui va dire, c'est la scène, toi tu ne te lèves pas parce que tu as fait ça cette semaine. Et ça, ce n'est pas juste. C'est comme ça que ça se passait. Il s'était privé un mois de la Sainte Cène. C'était la chose la plus terrible, paraît-il, à l'époque, d'être privé de la Sainte Cène. Alors, cette scène, elle nous est proposée, non pas comme un rite posé par les hommes, elle est posée par le Christ. Dans la nuit où il fut livré, le Christ a pris du pain, a pris du vin, dont nous avons ici les symboles, qui ont traversé les siècles. On a toujours du pain, on a toujours du vin. Et ces mêmes symboles nous permettent de témoigner que ce Christ dont il nous est parlé dans cette parole, justement, qui est si importante, ce Christ est mort pour nous. Pour chacun de nous, pour nos péchés. Et ce Christ est ressuscité, et avec cette résurrection, et en suivant sa parole, il nous permet tout. Il nous permet cette vie. Donc c'est dans ce sens-là que je vous invite à participer. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez fait cette semaine pour vous punir et vous priver de la scène. Dans la scène, il y a le pardon de Dieu, il y a l'acceptation de Dieu. Et Dieu dit, dans sa parole, le Christ dit, examinez-vous vous-même et prenez ce repas. Ça veut dire qu'il y a dans ce repas l'examen de notre situation, mais il y a dans ce repas aussi l'accomplissement du pardon de Dieu qui nous accepte tels que nous sommes. C'est donc un appel à participer à ce repas. J'ai demandé à Nathan et à Craig de venir. Et nous voulons remercier notre Dieu pour cette table, parce que c'est sa table où il nous invite, et nous invite comme des frères et comme des sœurs à simplement partager ce repas, nous souvenir de lui. Chaque fois que vous prenez ce pain et ce vin, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire qu'on va à la fois le remercier pour ce sacrifice qui nous donne la vie, mais à la fois aussi annoncer qu'il revient bientôt, et que là, il n'y a pas d'autre alternative, c'est son règne avec la puissance de sa parole. Nous voulons prier pour ce corps qui est brisé pour nous.
Seigneur, merci parce que tu nous invites à ta table, à ton repas. Je te demande pardon parce que je suis pas digne d'être à tes côtés à ce repas et tu m'as racheté à la croix. Par le nom puissant ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, pour chacun de vous. Si vous voulez prier pendant ce temps, ou entonner un chant, vous pouvez le faire librement. Qui a cru ? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort de la terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, mais nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang du Christ a coulé sur la croix pour nous laver de nos péchés. Pour nous laver de nos péchés. Et il nous a dit que nous sommes à ses yeux blancs, plus blancs que la neige. La neige, on connaît ici que c'est blanc, on sait que c'est blanc. On voit la différence entre la neige qui est sale au bord de la route et la neige qui vient d'être tombée. Et nous sommes aux yeux de Dieu plus blancs que la neige. Nous voulons le remercier pour ce sacrifice.
Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. On ne méritait pas. Mais aucune autre personne n'aurait pu faire cette démarche-là. Merci parce que ton sang a coulé. Puis là, on prend ce matin ce jus de raisin en se rappelant que ça a coulé pour nous, pour laver tous nos péchés. Et que quand tu reviens, parce que je sais que tu reviens, qu'on peut passer la vie éternelle avec toi. Amen.
Nous voulons encore écouter et chanter un chant que le groupe Louange va nous apporter maintenant. Je vous invite à vraiment regarder à vivre et à chanter la force des paroles du chant.
Viens vers nous, roi des cieux, viens en nous.
voudrais partager avec vous les annonces. Activité de l'église cette semaine, lundi, Femme Club, 14h chez Rebecca. Le soir, conseil, 19h30, conseil d'anciens ici. Merci de continuer à prier aussi pour le conseil d'anciens. Mardi, réunion de prière ici, important, 20h30, réunion de prière ici, l'église. On vous invite vraiment à venir prier ensemble, c'est important. Jeudi, ce n'est pas une collecte, la banque alimentaire, c'est un apéro. Peut-être qu'il y aura plus de monde. Non, c'était un gag. Simplement, le président et la présidente de la Banque alimentaire de l'Ain descendent jeudi, comme toutes les fois, pour faire un petit débriefing sur ce qui s'est passé au mois de novembre et reparler de la future collecte aussi. Ça se passera à l'église Mennonite de Saint-Genis à 18h. Jeudi, vous êtes les bienvenus, si vous êtes venus participer, même si vous n'êtes pas venus, vous êtes les bienvenus pour venir écouter, et puis je pourrais boire un petit pot avec eux, c'est sympa aussi. C'est jeudi soir ici, samedi groupe de jeunes, dimanche prochain nous sommes déjà en février, et ce sera le café-thé à 9h30. Si vous n'avez pas l'habitude, venez. Tiens, faites-le. Vous savez, dimanche, je vais vous dire un truc. Dimanche passé, Emmanuel est venu là, et puis il a dit, tiens, vous connaissez tous un enfant d'entre 4 ans et 12 ans ? 13, 12, 13, voilà. Il y avait 27 enfants au club hier. 27. Alors, vous connaissez tous ce que c'est qu'une tasse à café ? Vous pouvez venir à 9h30 dimanche. Voilà. C'est pas que pour les enfants. C'est pour les grands aussi. C'est un beau moment sympa avant le culte. Puis on est frais et dispo pour le culte après, c'est sympa, c'est bien. 10h30, notre culte ici. Voilà, je vais vous donner encore une ou deux nouvelles. J'ai eu cette semaine des nouvelles de Brian et d'Hélène qui ont bien demandé de vous saluer. Ils commencent à trouver un petit peu leur marque. Hélène commence à aller mieux. J'ai l'impression que c'est un peu plus lent que ce qu'ils pensaient. Brian commence aussi à aller mieux, mais à se rendre compte qu'il a été bien marqué aussi par ce temps. Donc on veut vraiment prier pour eux. En tout cas, ils saluent bien chacun. Et ils pensent à nous, bien sûr. On les connaît, hein. Ils pensent à nous, donc très fort. Mais on veut aussi continuer à prier pour eux, pour ce rétablissement. Et puis, quelque chose qu'on m'a dit ce matin, ça m'a frappé. Parce que là, je peux penser que même si c'est des personnes qu'on ne connaît pas, on peut prier pour eux. Et c'est des personnes, le nom ne va rien vous dire, peut-être. Mais les plus âgés, ils les connaîtront peut-être. C'est un couple qui habite vers le Lignon, qui s'appelle Pierre et Hélène Gillard. Leur fille Claire-Lise a participé à la chorale pendant plusieurs années ici, Claire-Lise Gillard, et il se trouve que leur maison était détruite par un incendie hier matin, totalement détruite. Et je vous demande spécialement qu'on puisse prier pour ces gens-là cette semaine, qu'on puisse vraiment les porter auprès de notre Dieu qui aussi donnera des solutions. Voilà, pour Pierre, Hélène, et puis pour Anne-Lise, et puis pour cette famille qui est vraiment dans une situation difficile. Voilà, Dieu nous demande aussi de partager, hein. On a prié pour des gens qui étaient loin, on peut aussi prier maintenant pour des gens qui sont prêts. Pensez-y cette semaine, pensez-y, Pierre et Hélène, c'est facile à se rappeler, pensez-y cette semaine. Voilà, il n'y a pas d'autres annonces ? Alors je vous invite à vous lever, et je vous lirai encore quelques versets, quand je les aurai retrouvés. Voilà. On a parlé de la parole de Dieu ce matin, on a remercié Dieu, on a loué Dieu. Et à la fin de son épître, Jean, l'apôtre Jean, de sa première épître, dit la chose suivante. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu demeure aussi en lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, le véritable, et nous sommes un dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde chacun. Amen.